Nous allons continuer dans l'étude de la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens. Encore une fois, si vous êtes nouveau, si vous n'avez jamais vraiment ouvert la Bible, vous demandez peut-être pourquoi on lit du courrier comme ça en public. En fait, c'est parce que nous avons la conviction que ces lettres ont été inspirées par l'Esprit Saint, que toute la Bible est la vérité, qu'elle a été inspirée par Dieu pour parler aux hommes. Dieu nous aime, Dieu est saint. Dieu ne peut pas tolérer le péché, c'est ce que nous voyons de façon très claire dans la lettre aux Romains. Et il nous révèle sa justice, sa sainteté par sa parole. Il nous révèle aussi son amour dans sa parole. Et nous pouvons mieux comprendre ce qui se passe autour de nous dans ce monde bizarre et souvent déroutant. Lorsque nous avons ces vérités bibliques comme fondement de notre vie. Et donc nous approchons ces textes en demandant à Dieu qui les a inspirés par son Esprit Saint, en lui demandant de nous les restituer par le même Esprit Saint pour qu'elles touchent nos cœurs, ces paroles, et qu'elles transforment nos vies. Le monde qui nous entoure est dans un grand besoin parce que nous sommes tous, autant que nous sommes, malade d'une grave maladie, maladie bien plus grave que le sida ou toutes les autres maladies auxquelles vous pouvez penser, la maladie du péché, la maladie du péché qui fait que nous ne pouvons pas nous présenter devant un Dieu très saint. Et c'est par la Bible que nous apprenons comment nous pouvons guérir de cette maladie. Il y a un remède, Dieu nous l'a fait connaître et nous avons de cesse que de le faire connaître autour de nous. Imaginez que vous arriviez à la conviction que vous avez un remède pour le sida, qu'en fait, qu'en mélangeant un peu de lait avec de l'huile d'olive, en mettant du citron et de la poudre de perlimpinpin, on arrive à guérir dans tous les cas le sida. Est-ce que vous trouveriez normal de garder ce remède pour vous? Si vous êtes essentiellement égoïste, peut-être c'est ce que vous feriez. Mais si vous avez la moindre trace de compassion pour ceux qui souffrent, vous feriez tout votre possible pour faire connaître ce remède. Surtout quand le remède est simple. Et Dieu a pourvu par Jésus-Christ le remède le plus simple à notre péché, cette maladie terrible qui, laissée à son libre cours, nous conduit à une éternité de malheur loin de Dieu. La Bible nous apprend que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Et là aussi, nous en parlons beaucoup dans l'étude de la lettre aux Romains. Mais nous sommes animés par ce désir aussi de partager ce remède, cette guérison qui est disponible pour tous, pour tous les hommes et toutes les femmes, quel que soit leur arrière-plan religieux, quel que soit leur arrière-plan philosophique, quelle que soit la nature de leur vie, moralement, physiquement, pour tous les hommes. Dieu a envoyé son Fils mourir afin que son sacrifice paye pour ma dette. Je mérite la mort, mais le Fils de Dieu l'a prise à ma place. Et si vous n'avez pas envie de transmettre ce remède autour de vous, de deux choses l'une, soit vous n'y croyez pas, Et vous venez peut-être ici parce qu'il y a du bon café après coup et on voit des gens sympas. Soit parce que vous n'avez pas encore compris combien ce salut est merveilleux. Vous le prenez pour quelque chose qui vous est dû, quelque chose dont vous avez entendu parler quand vous êtes tombé dedans, petit. Et à ce propos, c'est une longue introduction, mais c'est pour placer un peu les choses dans ce qui est important et pas important. J'ai parlé du film Inception, un film qui a beaucoup de succès. On pourrait parler d'autres films, beaucoup de films ont beaucoup de succès. Et j'ai remarqué que nous parlons de ces films, nous allons dépenser, nous allons investir, nous allons permettre à ces producteurs de continuer à produire le même genre de choses. Ça peut être très créatif, ça peut être très, très intéressant. L'intrigue peut être superbe, avec des rebondissements, des choses très ingénieuses qui nous séduisent intellectuellement. La musique peut nous plaire, les acteurs peuvent nous plaire. Mais tout ça, mes frères et sœurs, mes amis, mes voisins, ce n'est que de la fiction. Ce dont nous parlons, la Bible, c'est la réalité. On raconte l'histoire d'un pasteur qui parlait avec un comédien célèbre en Angleterre. Et ce pasteur était un peu dépité, un peu découragé. Il travaillait dur, il voulait annoncer l'évangile. Et il avait une petite congrégation et il disait à cet acteur, « Mais comment est-ce que vous faites pour attirer des foules comme vous le faites ?»« J'étudie, je prie, je travaille dur et j'ai peut-être 150 personnes qui viennent m'écouter le dimanche. » Vous êtes dans le plus grand théâtre de Londres et pendant 2 mois, il va y avoir des foules qui vont se presser, qui vont payer très cher pour vous voir. Pourquoi ça ? Et le comédien, qui apparemment avait beaucoup de sagesse, lui a dit, je crois que c'est très simple. Je présente la fiction comme si c'était une réalité, alors que vous présentez la réalité comme si c'était une fiction. Est-ce que lorsque vous parlez de Dieu, de l'Évangile, les gens sentent votre conviction ? Est-ce que votre vie reflète cette conviction ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est pas mal, mais vivement, mercredi soir, qu'on puisse aller voir les nouveaux films qui sortent ? Avec des intrigues fantastiques. Voilà, nous allons... C'est pour ça qu'on s'attache à la parole. Si nous n'avons pas la parole de Dieu, nous n'avons rien. Dieu se révèle dans sa parole. C'est pas quelque chose de facultatif. C'est pas quelque chose qu'on peut faire en plus de chanter. C'est très bien de chanter, surtout si on chante des textes qui ont une vérité biblique, qui sont basés sur les vérités de la Bible, encore mieux sur les paroles que l'on trouve dans la Bible. Mais pour beaucoup, c'est plus les émotions qui vont compter. On va vous faire vous lever, on va prier, vous allez tomber à la renverse. Mais s'il n'y a pas cette base de connaissance de la parole, vous n'allez pas pouvoir tenir ferme. Et c'est le sujet de ce matin, dans les versets 13 à 17 de 2 Thessaloniciens, « Demeurez ferme ». Page 235 dans la Bible à la colombe, si vous voulez suivre. Encore une fois, je ne sais plus s'il reste des Bibles. Quelqu'un a besoin d'une Bible ? Levez la main. Sinon, ça sera... Vous pouvez suivre. Quant à nous, frères bien-aimés par le Seigneur, nous devons continuellement rendre grâces à Dieu à votre sujet, car Dieu vous a choisi dès le commencement. pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. C'est à cela aussi qu'il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que nous vous avons transmises, soit de vive voix, soit par lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute œuvre et parole qui soit bonne. Juste quelques mots, quelques phrases, quelques versets qu'on peut lire en pilote automatique sans trop approfondir, et pourtant quelle profondeur, quelle richesse. On raconte que le grand prédicateur Spurgeon, prédicateur victorien anglais, donc de l'époque du fin du 18e siècle, 19e siècle, pardon, et début du 20e, non, fin du 19e, oui, il est mort en 1890. Sur les deux derniers versets, il avait prêché 5 sermons. Alors rassurez-vous, on ne va pas camper sur ces versets, mais pourtant, si nous reprenons et nous approfondissons un peu, nous allons être encouragés, nous allons être bénis. Vous vous souvenez un peu, je rappelle pour ceux qui ne seraient pas trop familiers avec le contexte, Paul avait implanté, démarré, commencé une église dans la ville de Thessalonique, en Macédoine, en n'y restant que très peu de temps, dans ce deuxième voyage missionnaire, peut-être que seulement que 3 sabbats, 3 semaines, ou peut-être un peu plus. Et là, il avait dû quitter parce qu'il était persécuté par des chefs religieux juifs qui luttaient contre l'enseignement de cette nouvelle voie de la foi chrétienne. Paul lui-même était un bon exemple, lui qui avait persécuté les chrétiens, avait été transformé radicalement sur le chemin de Damas, jeté à terre de son cheval, une vision de Jésus qui lui disait « Pourquoi tu me persécutes lorsque tu persécutes les chrétiens ?» Et de persécuteur, Paul devient le persécuté. Premier film de l'histoire du cinéma, pour vous qui aimez les films, c'était L'arroseur arrosé, des Frères Lumière, ou un des premiers films. Et là, c'est le persécuteur persécuté. Paul doit fuir la ville. Et quelques semaines ou quelques mois plus tard, il écrit une première lettre, puis il écrit une deuxième lettre encore peu de temps après, pour encourager ces chrétiens, ces jeunes chrétiens qui étaient persécutés. Persécution, des fois, on dit qu'on est persécuté parce que lorsqu'on dit qu'on va aller au culte le dimanche, les gens disent « Ah, tu crois encore à ces choses-là » et ils font des petites remarques, mais de nos jours encore, de par le monde, des chrétiens sont vraiment persécutés au prix de leur foi, de leur vie, pardon, pour tenir ferme dans leur foi. La persécution, c'est une réalité qui pourrait devenir une réalité ici même. Des fois, le Seigneur utilise la persécution pour faire grandir l'Église, comme nous l'avons évoqué avec la Chine, où la foi chrétienne a été interdite, pourchassée, où elle grandit de façon fantastique. Il écrit à ces chrétiens persécutés pour les encourager. Et nous vivons dans une époque où, s'il n'y a peut-être pas de persécution, nous comprenons mal, où nous vivons dans un monde qui a beaucoup de problèmes. Si on les, on n'en fait pas l'expérience dans notre vie au quotidien, il suffit de tourner les informations à la télé, d'ouvrir les magazines, pour voir que si on croit que ça allait bien cette semaine, en fait, ça va très très mal. Et puis les prévisions économiques, les prévisions météo, les prévisions de santé, les prévisions sismiques, tout ça nous dit que décidément le monde va mal. Et Paul veut nous inviter à nous accrocher à notre foi. Pas comme à quelque chose qui est une fausse béquille, qui marche pour nous mais qui ne marche pas pour tout le monde. Mais il veut nous inviter à nous attacher aux vérités qu'il a révélées pour que nous le connaissions, pour que nous soyons pardonnés de nos péchés, pour que nous puissions vivre une vie abondante qui commence ici-bas et pour l'éternité. Encore une fois, c'est Dieu qui a tout initié. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, n'ait pas une fin terrible ou une mort éternelle, pas une mort une fois pour toutes, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est une promesse. Si nous mettons notre foi dans le sacrifice de Jésus-Christ qu'il a accompli pour nos péchés, pour payer la punition qui est la mort. Et il leur dit, quant à nous, il vient de parler de ceux qui sont loin de Dieu, de ceux qui rejettent Dieu. Un des contextes était aussi que ces Thessaloniciens, ces chrétiens de cette ville, étaient inquiets parce qu'ils pensaient que la fin des temps était peut-être arrivée. La grande tribulation, le jour du Seigneur, ils pensaient que c'était arrivé. Et Paul leur dit non, Dieu, Jésus va, il l'a dit par ailleurs dans la première épître, peut arriver à n'importe quel moment, mais le jugement sur la terre, la grande tribulation, ce qu'on appelle communément dans le monde païen la fin du monde, ce sera précédé de trois événements. Il y aura d'abord un départ de la foi authentique. L'apôtre Paul disait que dans les derniers jours, donc dans ces temps difficiles, surgiront des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. On retrouve cette expression qu'on voit dans Romains. Ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là, dit-il à Timothée dans 2 Timothée 3, 6, 3, 1 à 5. Il y aura donc ce qu'on appelle parfois d'un mot vieillot et théologique, l'apostasie. Ça rime avec Sarkozy, mais c'est Estrosi, mais c'est pas. C'est juste pour que vous en rappeliez. L'apostasie arrivera. Il se révélera un homme impie appelé le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle de Dieu ou qu'on adore et qui va jusque s'asseoir dans le temple de Dieu. Cet homme qui apparaîtra sur la scène internationale comme un grand leader charismatique apportera des solutions fantastiques aux problèmes de l'humanité. Et les gens seront totalement subjugués pendant 3 ans et demi jusqu'à ce qu'il, animé par Satan, il veuille se faire adorer dans un temple qui sera reconstruit à Jérusalem. Et il va se révéler, donc il y aura cette apostasie, il y aura cette révélation de cet homme qu'on appelle communément aussi l'antéchrist, et puis il y aura le départ, l'enlèvement de l'Église. C'est ce dont il est question au chapitre 7, pardon, verset 7. On pense que ça va mal aujourd'hui, mais ça va aller beaucoup plus mal une fois que l'Esprit Saint agissant par l'Église ne sera plus à même d'agir par les chrétiens, parce que les chrétiens auront été enlevés. Ça, c'est dans la première partie de 1 Thessaloniciens. Et donc, Paul veut les rassurer. Et il leur dit, tous ceux qui suivent les mensonges, tous ceux qui ils vont périr parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils croient aux mensonges. Beaucoup de nos contemporains croient aux mensonges. Le mensonge absolu, c'est que Jésus n'est pas Dieu, que Dieu ne les aime pas, que Dieu n'a pas un plan de salut par Jésus-Christ. Et puis ça revêt des tas de formes, ça peut être des autres religions, des autres philosophies, des autres préoccupations, des autres priorités dans la vie. Et ceux-là seront jugés, ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Et là, verset 13, « Mais, quant à nous, frères bien-aimés par le Seigneur, nous devons continuellement rendre grâce à Dieu à votre sujet. » Paul, dans ses deux lettres aux Thessaloniciens, je crois qu'il y a 5 ou 6 passages où il leur rappelle qu'il prie pour eux. Il demande la prière pour lui. La vérité se trouve aussi dans la prière. Dieu a choisi d'écouter, d'inspirer, de répondre aux prières. Encore une fois, lorsqu'on fait ces listes de prières, ce n'est pas pour savoir qu'est-ce qui ne va pas chez vous, c'est pour intercéder, c'est pour demander à Dieu d'agir dans votre vie. Alors c'est vrai que la tendance, généralement, c'est on demande à Dieu de faire que les choses aillent mieux, que les choses soient plus faciles. J'aime bien, on a un ami pasteur qui est venu plusieurs fois ici, il dit que des fois lorsque les gens lui demandent de prier pour leur voyage, il dit « Et pourquoi tu veux que je prie pour ton voyage ?»« Ben pour que ça se passe bien. » Et il leur dit « Oui, peut-être le Seigneur ne veut pas que ça se passe bien. Peut-être que le Seigneur a d'autres plans, peut-être qu'il va... Qu'est-ce que tu racontes ? Tu veux pas prier pour moi ? Si, je vais prier pour que sa volonté soit faite dans ta vie. » Bon, arrête, tu vas me porter la poisse, certains disent, même chez les chrétiens. Généralement, on prie pour que les choses soient plus faciles. Une meilleure prière, c'est de prier pour que nos forces soient à la hauteur des difficultés que le Seigneur laisse arriver, se passer dans notre vie. On peut lui demander aussi d'éviter des épreuves trop dures, mais Paul nous assure par ailleurs qu'aucune tentation, aucune difficulté n'est trop grande pour que Dieu ne nous donne pas la force de nous tenir dessous, de résister à ces problèmes, à ces tentations, à ces difficultés. Il leur dit qu'ils sont des frères bien-aimés par le Seigneur. Nous sommes, si nous sommes venus à Dieu par Jésus, nous sommes bien-aimés, pas collectivement, mais individuellement. Peut-être que vous avez été rejeté dans votre vie, peut-être vos parents n'ont pas montré beaucoup d'amour, ou vos parents n'étaient pas là. Peut-être les gens qui vous ont élevé n'avaient pas beaucoup d'affection pour vous. Peut-être que vous vous sentiez rejeté, vous étiez toujours le dernier à être choisi dans l'équipe de basket. Bon, ben on te le donne. Merci pour le cadeau. Peut-être qu'aujourd'hui, ou plus récemment, un être que vous aimiez vous a trahi ou n'a pas montré d'amour en retour. Vous ne vous êtes pas senti bien aimé, mais la Bible vous assure que Dieu vous aime. Vous êtes un bien-aimé de Dieu. Quand on a cette assurance, tout change. Quand, même au plan humain, quand on se sait aimé par quelqu'un, qu'on a un premier amoureux, une première amoureuse, premier fiancé, première fiancée, on espère que c'est premier et définitif. Quand on se sent et on se sait aimé par un époux, une épouse, tout prend un sens différent. Et cet amour que peut-être vous n'avez pas trouvé ici-bas, ou qui vous semble bien imparfait, Dieu vous le donne de façon parfaite. Et vous dites, oui, mais s'il m'aimait, je n'aurais pas toutes ces difficultés. C'est un point de vue auquel nous, en tant que chrétiens, nous devons être capables de répondre en disant que le monde tel qu'il est maintenant, le monde dans lequel nous vivons, n'est pas le monde tel que Dieu l'a voulu. C'est le monde tel que l'homme l'a rendu en le rejetant, en rejetant Dieu. On ne parle pas de religion, mais il y a des choses terribles faites au nom de la religion dans tous les sens. Il y aura des choses encore horribles faites au nom de la religion. Il ne s'agit pas de religion, d'exclusivité. Il s'agit de l'amour d'un Dieu qui a donné ce qu'il avait de plus cher pour vous prouver cet amour. Je le dis souvent, l'amour de Dieu pour nous, il n'est pas dans nos circonstances. Nos circonstances fluctuent, nos sentiments fluctuent. On dort bien, on se sent mieux le matin que si on n'a pas arrivé à fermer l'œil de la nuit. On vient de trouver un travail, le patron est sympa, on est plus content que si on est toujours au chômage, ou si on vient de trouver un travail, mais le patron est dur à vivre. Mais l'amour de Dieu, lui, il est démontré une fois pour toutes. Il ne vous permet pas, il ne veut pas que vous en doutiez. Il l'a démontré à la croix. Je vous aime, comme je le disais la semaine dernière, mais je ne suis pas sûr que je donnerais Sébastien ou Tonio à mourir pour racheter vos péchés. Écoutez, hein, vous n'avez qu'à changer un peu, mais Dieu l'a fait. De toute éternité, il y avait cette unité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Union parfaite, Dieu est amour, Dieu doit exprimer son amour. On ne peut pas dire qu'on est amour si on est tout seul. Ça, c'est pour ceux qui ont des problèmes avec la Trinité. Un Dieu tout seul, il ne peut pas dire « je suis amour » s'il n'a pas d'objet d'amour. Il y avait cet amour éternel entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et Dieu a accepté de donner son Fils pour mourir pour nous. Quand j'explique l'Évangile, je prends souvent l'allusion du juge qui annoncerait la sentence à un condamné à mort, quelqu'un de mauvais, quelqu'un qui aurait pris plaisir à faire souffrir les gens de façon sadique en semant la mort tout autour de lui, prenant la mitraillette, passant en traction avant devant la faculté, en détruisant, en tuant des gens par plaisir, par sadisme. Un jour, il se fait attraper par la police, il comparaît devant le juge qui lui dit « vous êtes reconnu coupable ». Et la punition, c'est la mort. Et finalement, le criminel s'effondre, il réalise qu'il mérite cette mort. Mais le juge lui dit, un instant, j'ai une bonne nouvelle, mon fils ici présent va venir mourir à votre place, et vous, je vous invite à venir habiter avec moi. On dit, c'est un peu ridicule ton histoire. C'est exactement l'Évangile. Dieu le Père a donné son Fils pour que moi, le criminel, je puisse habiter avec lui pour toujours. Nous sommes bien aimés par le Seigneur. Paul leur dit, il doit continuellement remercier Dieu à leur sujet. parce qu'ils ont été choisis dès le commencement. C'est aussi un des sujets que nous allons aborder dans l'étude de Romains. Dieu nous a choisis, pas après nous avoir connus, peut-être que là il aurait refusé, non, c'est une plaisanterie, il nous a choisis avant même que nous fussions. Là, j'ai besoin des profs de français là. Imparfait du subjonctif. Avant même que nous ne fussions, il avait cet amour fusionnel. Non, il nous avait connus avant même que nous existions. Fusixation. Alors on dit, mais non, c'est pas impossible parce que Dieu n'habite pas dans notre monde, il n'est pas dans notre système à 3 dimensions ou 4 dimensions. Nous vivons dans un monde à 4 dimensions physiques. Il y a la hauteur, la largeur, la hauteur, largeur et longueur. J'y arrive, 3. Plus le temps. Mais Dieu nous a permis par la science de comprendre qu'on pouvait avoir davantage de dimensions. Et Dieu est le meilleur exemple. Il est en dehors du temps. Il est éternel, ça ne veut pas dire qu'il a commencé il y a très longtemps, qu'il va durer pendant longtemps, ça veut dire qu'il est au-dessus du temps. Il est au-dessus du temps et il connaît le passé comme le présent, comme le futur. Pour lui, c'est un éternel présent. Quand vous allez voir un film, décidément, je parle beaucoup de cinéma ce matin, vous voyez le film et pour vous, le présent, c'est l'image qui est projetée devant vous. Le passé, c'est l'image qui était sur la bobine qui a été passée il y a quelques secondes ou quelques minutes ou dizaines de minutes. Et le futur, c'est l'image que vous n'avez pas encore vue, celle qui est encore dans la bobine en haut et qui se déroule. Mais pour Dieu, le film de notre vie, c'est comme si on avait déroulé toute la Bible, toute la bobine. Il voit toutes les images. Il voit le présent, le futur, le passé. Et lui, dans cette éternité qui transcende notre conception du temps et de l'espace, il nous a connus, il nous a choisis même. Alors, quand on dit ça, beaucoup de gens disent « mais c'est pas juste !» Parce qu'il choisit ce qu'il veut, puis il laisse les autres. Encore une fois, le fait qu'il sache à l'avance, qu'il choisisse, ça ne veut pas dire qu'il ne laisse pas la liberté de choix. Si vous voulez être choisi, c'est très simple, dites oui à Jésus. Et si vous dites oui, si vous allez à Jésus, vous saurez que Dieu vous a choisi. On peut penser que c'est un peu une boutade, mais c'est ça, la foi. La foi et ce qu'on appelle la prédestination. Des fois, il y avait tout un débat au XVIe, XVIIe siècle sur le sujet de la prédestination. Si Dieu choisit, alors on n'a rien à faire. Non, Dieu nous laisse le choix et on sait qu'on est choisi parce qu'on dit oui à ce choix. Il vous a choisi dès le commencement pour le salut, pour être sauvé de la punition du péché qui est la mort éternelle, loin de Dieu. Mais nous sommes choisis pour le salut par la sanctification de l'esprit. Dieu nous transforme par son Esprit Saint. Autrement dit, on n'est pas, si vous pensez être sauvé, si vous avez prié une prière peut-être et vous dites « ça y est, j'ai prié, j'ai accepté le Seigneur, j'ai dit que j'ai accepté le Seigneur dans mon cœur », s'il n'y a pas de changement dans votre vie, alors vous êtes en droit de vous demander si vous avez jamais été sauvé. Parce que le salut s'accompagne nécessairement d'une transformation que la Bible appelle la sanctification. Nous devenons de plus en plus comme son Fils. Et nous croyons, nous avons foi en la vérité. Nous pensons que la Bible, c'est pas un livre parmi d'autres, qu'elle contient certaines vérités, elle est la vérité. Il y a un mouvement contre lequel je veux vous mettre en garde aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le mouvement de l'Église émergente, qui a de bonnes choses en elle, un souci de rendre le message de l'Évangile pertinent pour nos contemporains, mais qui a aussi tendance à penser que la Bible contient la vérité de Dieu. Le problème, c'est que si elle ne fait que contenir la vérité, qui va décider de ce qui est la vérité et de ce qui n'est pas la vérité? Vous vous érigez vous-même en juge, vous acceptez des hommes de s'ériger en juge au-dessus de la parole, alors que c'est la parole qui doit nous juger. Il vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit, par la foi en la vérité. Et il vous a, vous êtes bien aimé. Il vous a choisi pour le salut, vous êtes sanctifié, vous avez foi en la vérité et vous avez été appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous appelle. Peut-être que Dieu est en train d'appeler quelqu'un là en ce moment. On devrait être les experts à notre époque. Nous qui avons des... Nous ne sommes pas très intelligents bien souvent, mais nous avons des téléphones qui sont intelligents. Et c'est vrai que maintenant, ils peuvent faire beaucoup plus, retenir les noms, les téléphones mieux que moi et sans doute que vous. La notion d'appel, le fait d'être mis à part, notre sœur vient de recevoir un appel. Ce n'était pas tous nos téléphones qui ont sonné. C'est le sien. Dieu a envoyé un SMS à chacun de nous. Si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard. C'est quelque part qu'il y a... Vous sentez que le téléphone va sonner s'il n'a pas encore bien sonné. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous avez un téléphone portable près d'un ordinateur, vous pouvez savoir avant que le téléphone ne sonne qu'il se passe quelque chose. Parce que près du haut-parleur, ça fait des interférences et ça fait du bruit. Dieu nous appelle par son évangile. Il ne va pas nous appeler par un texto, par un grand phénomène dans le ciel. Il peut le faire, il peut nous parler par des rêves, il peut nous parler par des visions. Mais le plus souvent, et dans la majorité des cas, c'est par sa parole, par la bonne nouvelle de la parole. Alors vous dites, oui, je lis, mais je dis, est-ce qu'il y a des passages que vous avez envie de relire, de souligner? Je dis, si vous lisez votre Bible avec un stabilo boss jaune, chaque fois que vous surlignez, c'est que Dieu vous parle. Sa parole vous interpelle, on dit aussi. Dieu nous appelle. Pour que nous possédions la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Pas pour que nous soyons Dieu, mais que nous partagions dans la gloire, la réalité glorieuse, la réalité fantastique, spectaculaire, inimaginable, de la puissance et de l'amour de Jésus. Dieu nous appelle pour qu'on participe à cette gloire. Il y a des événements sur Facebook et vous êtes invités, vous pouvez répondre. Dieu vous appelle à participer à sa gloire éternelle, un événement pour l'éternité qui va durer en dehors du temps, pour toujours. Paul sait qu'ils sont secoués. Et peut-être que vous aussi, vous êtes secoués par les événements qui se passent dans votre vie. Les problèmes de famille, les problèmes de santé, les problèmes de revenus, les problèmes de logement, les difficultés quotidiennes de l'existence, la maladie, le handicap. Et l'ennemi va vous tenter de renoncer à la foi. Oui, c'est bien beau quand tout va bien de dire que tu crois en Dieu. Mais là, tu vois bien qu'il ne t'aime pas. Il laisse des choses terribles se passer. Paul leur dit, il nous dit, demeurez ferme. Demeurez ferme. tenez ferme ces vérités. On raconte l'histoire d'un pilote d'hélicoptère qui avait se penché pour voir quelque chose et qui était tombé et qui s'était rattrapé à un des montants de l'hélicoptère. Et le copilote avait pu ramener l'hélicoptère avec l'homme sain et sauf. Mais il a fallu travailler pour dégager, pour qu'il ouvre sa main. Il était tellement contracté, on le comprend. Ça avait marché, ses mains étaient tétanisées autour de la barre. Paul nous dit, tétanisez vos mains, vos cœurs après ces vérités. Ne vous laissez pas influencer, ne vous laissez pas décourager par ce qu'on vous dit, par le monde, par les souffrances, par les déboires. Demeurez ferme et retenez les instructions que nous avons transmises, soit de vive voix, soit par lettre. Certaines vieilles traductions parlent de « retenez les traditions », mais les traditions, pas les traditions au sens de tradition humaine, mais d'instructions bibliques solides. Paul les avait communiquées de vive voix aux Thessaloniciens, nous les avons par lettre, nous en parlons, nous pouvons étudier, nous pouvons parler, et ces instructions, nous devons nous y attacher de toute notre énergie. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance console vos cœurs et vous affermisse. Encore une fois, cette idée d'affermissement en toute œuvre et parole qui soit bonne. Paul leur dit, c'est Dieu lui-même, et c'est intéressant, c'est un passage. Lorsqu'on vous parle de Dieu, Jésus n'a pas dit qu'il était Dieu, Jésus n'est pas Dieu, il est seulement un prophète ou un fils humain de fée entre Dieu et la Vierge Marie. Non, on voit ici que grammaticalement, le Seigneur Jésus-Christ et Dieu notre Père ont un singulier comme verbe. Et c'est même Jésus-Christ qui est nommé en premier. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Encore une fois, c'est une vérité biblique que l'on retrouve tout au long de la Bible. Seigneur Jésus-Christ est Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. C'est pas la grâce, ce n'est pas parce que nous méritons, c'est parce qu'il nous aime. Il nous a donné une consolation éternelle. Dieu merci, la plupart du temps, nous souffrons, mais nous avons de bonnes choses dans nos vies. Même si ce n'est pas le cas, et pour certains ça n'est pas le cas, la vie n'est qu'une suite de souffrances, s'ils sont venus à Jésus, ils ont une bonne espérance, l'assurance d'un bien à venir certaine. Et cette assurance d'un bien à venir certaine, c'est une consolation éternelle. On va, Dieu voulant, pouvoir faire des randonnées le week-end prochain. Peut-être monter au lac de Trécoulpe, ou au mont de l'Archas, pour les plus en forme. Et pour beaucoup, c'est un temps de souffrance que cette escalade, cette randonnée macho, et la randonnée dodo, la randonnée mollo, et la randonnée macho. Mais même pour ceux qui participent à toutes ces randonnées, le voyage n'est pas souvent très drôle. Il y a un sac à porter, on ne sait pas où on en est. Mais une fois qu'on arrive et qu'on voit la beauté du lac de montagne, qu'on voit les truites faire des ronds dans l'eau, qu'on voit la neige sur les collines, on se dit, ça valait la peine. Et Dieu veut que vous sachiez que si vous l'aimez, ça va valoir la peine. Il ne garantit pas un meilleur voyage ici-bas, mais il nous garantit que la destination va vraiment valoir toutes les souffrances, tous les efforts, toutes les difficultés que nous rencontrons. Et ça doit consoler nos cœurs, ça doit les fortifier. Nous sommes des êtres tellement sensibles à nos émotions. On parlait hier et avec un ami, on disait, c'est vrai que on est tellement sensible au temps. Nous qui avons le privilège et la joie et vraiment le bonheur de vivre dans un pays, dans une région où il y a beaucoup de soleil et de ciel bleu. Je sais que le matin, si je vois un temps gris, c'est pas la même chose. Nous savons que si nous voyons le ciel gris, même s'il pleut très fort, le soleil est toujours au-delà des nuages. Dieu veut que vous sachiez qu'au-delà des difficultés, du temps d'orage, de difficultés, le soleil brille et que vous allez, comme à travers les nuages, vous allez, quand on est en avion, il pleut à Seattle, on part dans les nuages et on voit le soleil au-dessus de Seattle. Les gens qui habitent Seattle ne voient pas le soleil, mais le soleil est là. C'est la même chose dans nos vies. Toutes les difficultés, tout ce que nous rencontrons, si nous appartenons à Jésus, si nous avons mis notre foi en ce qu'il a fait pour que nous vivions éternellement, nous pouvons demeurer fermes dans la foi. Et c'est Dieu qui nous a fermis. Nous pouvons demander à Dieu de nous fortifier. Et puis il nous dit d'être affermis en toute œuvre et parole qui soit bonne. Trop souvent, nous les chrétiens, nous avons, et moi qui vous parle, sans doute le premier, tendance à parler beaucoup et à faire peu. Faire peu pour montrer l'amour aux gens qui nous entourent, aux frères, aux sœurs et à ceux qui ne connaissent pas Dieu encore. Mais Paul dit que ce qui compte d'abord, ce n'est pas les mots que vous pouvez dire, c'est les choses que vous faites. Comme je le dis souvent, des fois on parle de quelque chose et comme c'est rentré dans notre sphère de notre intellect, on a l'impression que c'est comme si on avait fait la chose. Je veux appeler telle personne, oui, il faut que j'appelle. Mais les choses et circonstances font que je ne le fais pas. Pour la personne, le fait que j'ai eu de bonnes intentions, ça n'a pas fait un poil de différence, un iota, dirait la Bible. Encore une fois, c'est Dieu qui nous fortifie pour faire du bien autour de nous, pour dire de bonnes paroles. Il y a des paroles qui peuvent blesser, qui peuvent détruire. Dieu nous dit, faites du bien et dites du bien. Amen. Et nous allons pouvoir tenir ferme.